Bonjour à tous. Je suis Dominique Mailly, je travaille au CNRS, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille dans ce laboratoire qui est à Marcoussis, qui va d'ailleurs bientôt, enfin dans 4 ans quand même, déménager sur le plateau de Saclay. On rejoint un autre laboratoire qui lui est un laboratoire mixte, c'est celui de l'Institut d'électronique fondamentale, pour créer sur le plateau de Saclay un très gros centre de recherche sur les nanostructures et la nanofabrication. Donc ce que je vais essayer de faire pendant ce séminaire, c'est vous montrer les techniques de fabrication. Alors là, c'est le top-down brut, c'est-à-dire vraiment les techniques de fabrication qu'on utilise plutôt en physique pour faire des structures qui sont... Alors ce qu'on appelle les nanos en physique, c'est tout ce qu'à partir de 100 nanomètres, on commence à dire qu'on fait de la nanofabrication. Donc on peut descendre en dessous de 100 nanomètres. Je vais vous montrer qu'on peut en fait descendre en dessous de 10 nanomètres avec ces techniques. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord vous faire un petit historique de la microélectronique. Pourquoi la microélectronique? Bien, tout simplement parce que c'est la driving force de ces technologies de top-down. C'est vraiment la microélectronique qui est demandeuse de ces technologies. Et donc je vais faire juste un petit historique pour vous montrer comment... Pourquoi et comment on fait. Et je ferai un exposé des différentes techniques de nanofabrication en vous donnant un peu les limites auxquelles que l'on peut obtenir. Donc je vous parlerai des grandes techniques, c'est-à-dire que la lithographie optique, la lithographie par faisceau focalisé, donc essentiellement lithographie électronique et un peu lithographie ionique. Et je vous parlerai finalement d'une technologie assez nouvelle, qui en fait est très ancienne, qui s'appelle la nano-impression, qui permet également d'avoir des tailles relativement petites. Et si j'ai un peu de temps, je vous parlerai des techniques de transfert. Donc c'est ce qu'on appelle technique de transfert, c'est comment, une fois qu'on a fait la lithographie, comment on transfère ça dans l'échantillon. Donc c'est essentiellement, en ce qui nous concerne, des techniques de gravure. Alors... un petit historique sur la microélectronique. Donc, le premier transistor qui a donné lieu au prix Nobel pour Bardeen, Brighton et Shockley date de 1947. Donc voilà, c'est pas leur transistor, mais c'est en gros ce qu'ils avaient réalisé. Donc c'est essentiellement à base de cristaux de germanium. Donc c'est un cristal qui fait de l'ordre, ici c'est des tailles de l'ordre de plusieurs millimètres, donc c'est un objet qui est vraiment très très macroscopique. Donc là vous avez la grille, là le drain, la source, donc on peut moduler en appliquant une tension sur cette grille, en fait sur cette électrode, on pouvait moduler le courant qui passait entre le drain et la source. Alors pour la petite histoire, ils ont mis beaucoup de temps à comprendre comment ça marchait, et en fait c'est essentiellement Bardeen qui a compris l'affaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui date de 1947. Et en 1957, on s'est intéressé à faire des objets plus petits, c'est-à-dire essayer d'intégrer ces transistors dans quelque chose de plus petit. Et on a commencé à utiliser les techniques de photolithographie. Et en 1959, sont apparus les premiers circuits intégrés, je dirais. C'est-à-dire, en premier circuit intégré, il y avait essentiellement un transistor, un condensateur et une résistance. Donc, c'est le premier circuit intégré. C'est Kilby, le fondateur de Texas Instruments, et Noyce, qui ont réalisé ces premiers circuits intégrés et ils ont eu le prix Nobel en 2000. Donc, ça, c'est le premier transistor. Et vous voyez les transistors un peu de la... pas encore, que vous n'avez pas encore dans vos ordinateurs, mais parce qu'on sait les faire, mais pas à l'échelle, à une grande échelle industrielle. C'est les derniers transistors CMOS. Donc vous voyez qu'ici, maintenant, donc la grille est limitée à une dizaine de nanomètres, voire un peu moins. Le liner, la zone active de la grille est encore plus petite. Et ici, vous avez donc le drain et la source qui sont là, et donc le canal ici qui fait de l'ordre de la dizaine de nanomètres. Alors évidemment, pourquoi on veut faire des transistors de plus en plus petits? Mais pour une raison assez évidente, c'est que d'abord, si on les fait plus petits, on peut en mettre un plus grand nombre dans un même chip. Ça permet de concentrer le système et donc d'avoir plus de puissance. Et puis également, on va beaucoup plus vite, puisque finalement, ce qui limite la rapidité de fonctionnement d'un transistor, c'est simplement le temps que met l'électron pour passer du drain à la source. Et donc, plus ce qu'on appelle le canal, plus le temps de transport dans le canal sera court, plus on pourra aller vite. Et donc ce temps de canal, évidemment, il dépend simplement de la longueur du canal, puisqu'on reste encore dans du silicium. Le silicium reste encore le matériau merveilleux pour la microélectronique. Et puis l'autre chose qui limite le fonctionnement, c'est qu'il faut le piloter avec une tension, là, la tension qu'on met sur cette grille, donc qui est ici, et ce qui limite la fréquence qu'on peut appliquer sur sa grille, c'est simplement la capacité de charge, le temps de charge de cette capacité pour pouvoir la moduler, et ça dépend simplement d'un effet géométrique, c'est-à-dire c'est simplement la surface de cette grille et également la distance entre la grille et le canal. Donc on veut faire très petit, et c'est pour ça que la microélectronique s'est toujours intéressée à ces techniques de nanofabrication. Alors quand on vous parle de microélectronique, on ne peut échapper à ce qu'on appelle la loi de Moore. Donc Moore, c'est ce monsieur-là, Gordon Moore, qui est un des ingénieurs fondateurs d'Intel. Et dans les années 70-80, il s'est amusé à regarder la production d'Intel, et s'est amusé à regarder combien il y avait de transistors dans une puce, dans les processeurs que sortait Intel au cours des années. Et s'est aperçu qu'il y avait un facteur d'échelle assez important, c'est-à-dire que tous les 2 ans, on doublait, 2 ans et quelques, 18 mois exactement, tous les 18 mois, on doublait le nombre de transistors dans un chip. Donc on passe dans les premiers processeurs, vous voyez, dans les années 70, qui avaient 1 millier de transistors, on est arrivé maintenant à des circuits qui ont plusieurs milliards de transistors. C'est-à-dire quand vous regardez, si vous ouvrez votre ordinateur portable, vous arrachez le microprocesseur, vous l'ouvrez et vous allez trouver, si vous ne pourrez jamais compter, parce qu'il y en a plusieurs milliards de transistors dedans. Pour la petite histoire, ce qui est en bleu, c'est les processeurs standards, monocore, c'est-à-dire qu'il y avait un seul cœur. Et maintenant, vous voyez que les processeurs orange, là, la suite maintenant, ce sont des... Et vous voyez que la loi de Moore, on n'y arrivait plus. On perdait la loi de Moore avec les processeurs à un seul corps. Et en fait, on récupère la loi de Moore en mettant des processeurs à plusieurs corps. Et la raison essentielle, c'est un problème de dissipation. C'est-à-dire que si vous regardez vos ordinateurs actuels, ils ont des fréquences d'horloge qui sont à peu près stables depuis quelques années. C'est de l'ordre de 2 à 3 GHz. En fait, on fait des transistors qui pourraient aller à 10, voire 15 GHz. Le problème, c'est si on les fait pédaler, si je puis dire, à ces fréquences-là, eh bien, votre ordinateur sur les genoux, vous ne pourriez plus tenir, ce serait un véritable four, et il finirait par fondre. Donc, on n'arrive plus, il y a des problèmes de thermique qui sont maintenant ce qui gêne le plus l'industrie de la microélectronique. Et donc, pour éviter ça, eh bien, plutôt que d'avoir un processeur qui fait tout le travail, on en fait plusieurs qui sont répartis dans l'ordinateur, dans le microprocesseur. Et comme généralement, on n'a jamais besoin des mêmes choses en même temps, eh bien, ça permet de répartir la puissance. Alors, ça, c'est juste ce qu'on appelle la roadmap ITRS. Donc, c'est la roadmap de l'industrie du silicium qui vous montre, en gros, qu'est-ce qui se passe. Là, donc, en 2011-2012, on est ce qu'on appelle le nœud 32. Donc, ça veut dire que la distance typique la plus petite qui existe, c'est 32 nanomètres. Donc, actuellement, on est dans les nanos pour la microélectronique. Et vous voyez que ce qui est prédit, c'est de descendre en 2017 en dessous du nœud, en dessous des 20 nanomètres. Alors, ce qui est en jaune, c'est ce qu'on sait faire à peu près. Donc, on sait, en 2012, heureusement qu'on sait, on sait faire du 32 nanomètres, donc tout va bien. Et puis, vous voyez que pour 2013-2014, il faudrait descendre un peu en dessous, 28, et là, rouge, ça veut dire que on n'est pas encore sûr de savoir le faire. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup de recherches actuellement, et ce que je vais essayer de vous montrer un peu comment ça marche. Alors, cette évolution, évidemment, s'est faite grâce à une fabrication qui est massivement parallèle, et ça a notamment permis de faire baisser le prix des ordinateurs. Si vous comparez le prix d'un million de transistors dans les années 70, ça coûtait de l'ordre de 70 kilo-euros. Maintenant, le prix d'un millier de transistors, c'est moins d'un centime d'euro. Donc, c'est la seule industrie qui a été capable, je pense, si vous prenez l'industrie automobile, ça voudrait dire que vous payez votre voiture à peine un euro. Donc, c'est la seule industrie qui a été capable de faire cette prouesse technologique. Et ça a été grâce notamment au progrès de la lithographie et aussi de toutes les techniques qui sont nécessaires à côté. Alors, pourquoi la lithographie a fait autant de progrès? C'est ce que j'ai essayé de vous montrer. Longtemps, on a cru quand vous prenez un système optique, quand vous utilisez de la lumière pour faire un objet, vous ne pouvez jamais faire quelque chose de mieux que la longueur d'onde que vous utilisez. Donc je vais vous montrer que c'est totalement faux. Maintenant, on est capable de faire des objets qui sont plus petits que le quart de cette longueur d'onde. Actuellement, on est en dessous de 40 nanomètres dans les microprocesseurs en utilisant une longueur d'onde de 193 nanomètres. Donc on est capable de faire bien mieux que la longueur d'onde. Alors voyons comment on peut faire ça. Alors la première chose, c'est de voir d'abord qu'est-ce que ça veut dire faire de la fabrication, ça consiste à quoi faire. Eh bien, ça consiste à partir d'un substrat, alors qui est souvent du silicium pour la microélectronique. Dessus, vous allez mettre une résine. Donc une résine, c'est simplement un matériau, généralement polymère, qui est sensible à de l'énergie, à du rayonnement. Et vous allez effectivement appliquer un rayonnement dans des endroits localisés sur cette résine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la lithographie. Et puis ensuite, eh bien, vous allez développer votre insolation. Donc généralement, l'endroit qui a été insolé, eh bien, la résine va disparaître. Et avec ça, eh bien, vous pouvez faire des tas de choses. Vous pouvez, par exemple, déposer un film métallique, par exemple, sur l'ensemble de votre substrat. Et ensuite, vous dissolvez la résine avec un solvant. Et donc, il ne restera du métal qu'aux endroits où il y a un trou, où vous avez fait le trou dans la résine. Donc, vous avez reproduit ce que vous avez insolé par quelque chose de physique, un métal. Donc, ça peut être une interconnexion métallique, ça peut être la grille de votre transistor, ça peut être des tas de choses. Bon, vous pouvez également, si vous voulez, utiliser ce trou pour faire une étape de gravure ou d'implantation, pour faire par exemple le caisson d'implantation de la source ou du drain. Donc ça, c'est la base de la fabrication, c'est de faire ça. Et donc vous voyez bien que ce qui va vraiment définir la taille de ce que vous êtes capable de faire, c'est cette lithographie. Alors, qu'est-ce qu'on sait faire en lithographie? Eh bien, il y a deux types. Il y a la lithographie optique par contact, la lithographie optique par projection. Donc, c'est ça qui est surtout utilisé dans l'informatique. Et puis, il y a aussi une écriture par faisceau focalisé. Et puis, récemment, on a utilisé la nano-impression. Donc, je vais vous parler de ces trois différentes techniques. Alors, on va commencer par la lithographie optique. Et dès qu'on utilise de l'optique, on utilise donc des ondes, et dès qu'on utilise des ondes, on a des problèmes de diffraction. En gros, si vous éclairez avec une source une ouverture et vous mettez un écran derrière, eh bien, vous n'avez pas simplement de la lumière par l'ouverture ici, mais vous avez de la lumière sur un cône beaucoup plus grand, et ça, c'est dû aux effets de diffraction, c'est-à-dire que les rayons lumineux, la lumière n'aime pas qu'on la limite dans l'espace, et dès que si vous la limitez dans l'espace, elle va aller un peu n'importe où. Donc, c'est les problèmes de diffraction, et c'est ça le cœur de la résolution des systèmes optiques. Donc, en gros, si je prends cette fente de largeur A, et si je l'éclaire avec une lumière parallèle devant un écran, eh bien, suivant la distance de mon écran par rapport à cette fente, je vais avoir deux types de diffraction. La diffraction à très petite échelle, quand l'écran est très près de ma fente, ce qu'on appelle de Fresnel, donc je vais avoir un peu cette forme-là. Et puis, plus je déplace mon écran, plus je vais avoir une forme qui va évoluer jusqu'à ce qu'on appelle la diffraction de type Fraunhofer, où j'ai cette espèce de courbe qu'on appelle la courbe d'Herring. Alors, on va voir donc comment cette diffraction va donc limiter la résolution de votre technique. Alors, les premières techniques de lithographie optique des premiers processeurs dans les années 70, c'était ce qu'on appelle la lithographie par contact ou proximité. Le principe, c'est extrêmement simple. Vous avez votre wafer, dessus, vous mettez votre couche de résine, et puis vous avez un masque. Un masque, c'est quoi? C'est un objet qui est fait d'un matériau qui est transparent à la radiation que vous utilisez, et dessus, vous êtes capable de déposer des endroits qui sont opaques à la radiation. Donc, vous éclairez ce système-là avec une lumière parallèle. Donc, la lumière est bloquée par ces endroits opaques et puis pénètre dans ces endroits transparents, et donc, vous insolez aux endroits que vous avez définis par votre masque la résine. Alors, si tout se passait bien, voilà, eh bien, on aurait ici l'intensité dans la résine qui serait 0 ici parce que vous avez le masque, et puis là, 1, etc. Il se trouve que ça diffracte, notamment ici sur les bords du masque, et l'intensité que vous obtenez au final, là j'ai un peu exagéré volontairement, c'est quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir, mais enfin qui est fortement déformé par rapport au transfert idéal. Vous voyez que même, vous pouvez avoir des effets d'interférence assez pernicieux qui font que même à un endroit où vraiment vous vous attendez vraiment à avoir zéro lumière, eh bien vous pouvez avoir même un pic assez important si vous avez des interférences constructives, des rayons diffractés ici. Donc ça vous limite la résolution, et on peut calculer cette limitation de résolution. Donc ce que j'appelle R, c'est la plus petite structure que vous pouvez reproduire. Eh bien, en calculant cette diffraction de Fresnel, on trouve que c'est évidemment, c'est la racine de lambda, il y a toujours la longueur d'onde de l'énergie qui intervient, fois la distance entre le masque et le bas de l'échantillon, donc le gap, ce qu'on appelle le gap, c'est la distance entre le masque et la résine, et puis éventuellement l'épaisseur de résine. Alors, on est obligé de mettre un gap parce que votre échantillon, souvent, il n'est pas plat, il est un peu courbe, il a subi pas mal de dépôts, de choses comme ça qui l'ont contraint, donc on est obligé souvent de mettre un gap. Et puis, si on plaque, alors on peut aussi plaquer, mais si on plaque, on peut, après, il faut enlever, donc souvent, on détériore la résine, etc. Donc, dans la microélectronique, on n'aimait pas trop plaquer. Et finalement, si je prends un exemple avec un gap de 10 microns, une longueur d'onde de 400 nanomètres, vous obtenez la plus petite chose que vous pouvez faire est de l'ordre de 10 microns. Donc ça, c'était les premiers développements de la microélectronique des circuits intégrés des années 70-80, où c'était de l'ordre de 10 microns. Alors, ça n'allait pas, surtout qu'on ne pouvait pas améliorer ça beaucoup, parce que si vous diminuez énormément les longueurs d'onde, alors on peut diminuer la longueur d'onde jusqu'à aller vers 200 nanomètres, mais après, en dessous de 200 nanomètres, vous commencez à avoir des difficultés de trouver des matériaux transparents. Le quartz commence à plus du tout être transparent. Donc s'il n'est pas transparent, ça veut dire qu'il absorbe. S'il absorbe, ça veut dire qu'il chauffe. S'il chauffe, il se déforme, et donc votre structure est déformée également. Donc on est finalement... donc ça, c'est un truc c'est très facile à faire, économiquement c'est très facile, mais par contre on est quand même limité typiquement autour de 0,5 microns au mieux. Donc pour aller au-delà, on va mettre une lentille entre le masque et l'échantillon. Donc cette lentille, elle va vous permettre déjà d'avoir un masque qui n'est pas à l'échelle 1 par rapport à ce que vous voulez faire, donc vous pouvez faire un masque plus gros que ce que vous allez faire, et puis elle va vous permettre de vous affranchir des effets de diffraction juste en sortie du masque. Alors, je suis obligé de vous introduire ce que c'est que l'ouverture numérique d'une lentille. C'est simplement l'angle maximal de collection de la lumière d'une lentille. Donc ça s'écrit l'ouverture numérique comme N0, l'indice du milieu, fois le sinus de cet angle-là, de maximal de collection. Et si vous prenez une lentille qui a un diamètre de D et une focale de F, on peut retrouver avec une petite approximation que cette ouverture numérique, c'est sensiblement D sur 2F. En gros, ça mesure la capacité de collecter la lumière. Ceux qui font de la photographie savent bien que la qualité des objectifs dépend de ça. Alors, quand on utilise une optique et qu'on regarde en champ lointain, on a ce qu'on appelle la diffraction de Fraunhofer, c'est-à-dire que l'image d'une ouverture circulaire de diamètre D, si on a une distance R, eh bien ça va être cette forme-là, c'est-à-dire qu'on a un disque bien brillant qui correspond à cette ouverture-là, et puis les effets de diffraction font qu'on a d'autres anneaux qui apparaissent, des anneaux clairs et des anneaux sombres. Le calcul assez facile dans le cas circulaire montre que le premier minimum ici, il est à 1,22 fois lambda sur F sur D, où F c'est la focale, donc c'est la distance entre l'écran et le... Ici c'est grand R malheureusement, donc la distance entre l'écran et la fente, et D c'est donc l'ouverture là. Alors, comment on va définir la résolution d'une optique? Eh bien simplement, vous allez prendre deux points source B et A, et vous allez regarder leur image. Donc ils vont chacun subir une diffraction. Si les deux points sont très séparés, vous allez avoir deux figures de diffraction qui sont très séparées, donc il n'y a pas de problème, tout va bien. S'ils sont très proches, eh bien vous allez avoir ces deux choses-là qui vont se combiner, vous allez avoir une espèce de patate au milieu, donc vous n'avez plus du tout distingué les deux points. Donc l'ordre Rayleigh a donné un critère pour dire quand on peut résoudre deux points, c'est simplement quand le premier... minimum de cette courbe de diffraction tombe sur le maximum de l'autre. Donc exactement dans cette situation-là. Donc ça, c'est la situation où je peux encore voir, distinguer mes deux points, et puis au-delà, eh ben, ce sera fini. Donc ça veut dire que la résolution maximale ou la distance la plus petite que vous pouvez résoudre, eh bien, c'est donc, vous calculez ça, ça fait 0,61, c'est 1,22 f sur lambda d, donc ça fait 0,61 lambda sur na. Vous vous souvenez que na, l'ouverture numérique, c'était simplement d, 2d sur lambda. Donc vous voyez que la résolution dans le cas d'optique est liée évidemment encore une fois à la longueur d'onde et puis à l'ouverture numérique. Alors ça, c'est un peu l'évolution de ce qui s'est passé durant les années. Donc, 1980, on est passé à la lithographie par projection, à peu près. Donc, on avait des longueurs d'onde de 436 nanomètres. Donc, ça, c'était une lampe à mercure, une des raies de la lampe à mercure. Des ouvertures numériques de 0,28. Et donc, on avait une résolution de 1,25 microns, qui était bien supérieure à celle de la lithographie par projection. Et le cas, ah oui, j'ai oublié de vous dire, les gens des process, ils aiment bien mettre un cas, pardon, ops, le cas, pardon, je me trompe de touche, plutôt de mettre le 0,61, ça c'est la limite théorique, le critère de relais, ils mettent plutôt un facteur K, parce que finalement, on ne fait pas que de la lithographie, on fait du développement de résine, tout ça diminue également la résolution, donc les gens, ils préfèrent mettre un K, et donc vous voyez qu'on était à 0,8, et puis après, on a amélioré un peu les choses, on est descendu en longueur d'onde, on a augmenté l'ouverture numérique, on est passé à 0,5 microns, donc avec un K qui était tout proche de relais. On a atteint relais en 95 avec une longueur d'onde de 248 nanomètres. Et donc là, normalement, on ne pouvait pas tellement faire mieux. Et bien, il se trouve qu'après, on a continué à faire mieux. On est arrivé à des cas de 0,46, 0,49, vous voyez, des facteurs qui sont plus petits que la limite théorique. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les techniques d'augmentation de résolution dont je vais vous parler, la Resolution Enhanced Technology. Donc, je vais vous parler, c'est qu'on va un peu tricher, on va un peu faire des astuces pour essayer d'aller au-delà. Alors, donc ça, c'est un peu un système générique de projection. Donc, vous avez une source de lumière, vous avez un condenseur, vous avez un masque, vous avez des pupilles, vous avez des lentilles de projection, vous avez un wafer, etc. On va essayer de jouer sur chacune de ces étapes pour essayer d'augmenter la résolution. Donc, je ne vais pas vous parler de toutes les techniques qui ont été faites, mais je vais vous parler de techniques qui utilisent des techniques de surface, les techniques de masque multiple et de shift mask. Alors, techniques de surface. Alors ça, c'est important parce que... en fait, ce qu'on va faire, c'est que comme on a toujours ce problème de limitation par l'ouverture numérique, et vous savez que l'ouverture numérique est aussi importante dans la profondeur de champ. Ceux qui font de la photo savent très bien que si vous voulez avoir une grande profondeur de champ, vous avez intérêt à fermer votre objectif. Donc si vous fermez votre objectif, l'ouverture numérique devient très faible, donc vous perdez votre résolution. Donc tout va mal. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est pas être trop sensible à ces effets de profondeur de champ, même avoir une faible profondeur de champ, c'est le mieux. Et donc, pour ça, on utilise ce qu'on appelle les top imaging techniques. Ça veut dire qu'on va simplement utiliser la surface de la résine. Et donc, ce qui se passe en dessous, donc les effets de diffraction en dessous, etc., on les néglige un peu. Alors, l'idée, c'est d'avoir donc un masque. Alors, bon, je mets pas... Il y a une lentille de projection, etc., peu importe. Donc, on va insoler à travers ce masque. Donc, on va insoler la résine. Et plutôt que de développer la résine... qui va développer toute la résine jusqu'au fond, en fait, on va mettre ça dans une espèce de solution qui s'appelle du HDMS. Donc, c'est une espèce de liquide qui contient du silicium. Et ce silicium, en fait, il peut incorporer la résine qui a été insolée. Mais il peut l'incorporer que de façon très superficielle, donc quelques dizaines de nanomètres. Donc, il n'y a que quelques dizaines de nanomètres qui sont incorporés de silicium. Et ça fait une surface ici qui contient du silicium et qui donc est prête à résister à une gravure ionique, notamment oxygène, qui elle va être bloquée sur tout ce qui est silicium et qui va bien, par contre, aller graver la couche de résine. Et donc vous voyez qu'on a obtenu une très bonne lithographie en étant sensible qu'à la surface. Donc ça permet de s'affranchir des problèmes de profondeur de champ et donc on peut augmenter l'ouverture numérique assez fortement. Alors, une autre chose qu'on peut faire, c'est finalement se dire, bon, je suis embêté par la diffraction, hein, eh bien, c'est d'utiliser justement la diffraction. Donc voilà un masque à transmission classique. Donc vous avez les zones opaques, les zones sombres. Ça, c'est le champ électrique de la lumière juste à la sortie du masque. Donc il est nul ici et puis là, il est important. Et puis quand ce champ se propage, il y a les diffractions qui fait que vous avez chacun les deux figures de diffraction qui se mélangent et qui donnent cette intensité sur le champ électrique qui est cela. Donc ça, c'est le champ électrique sur le wafer, et ça, l'intensité, c'est le carré du champ. Donc c'est ce qui est vraiment actif. Alors l'idée, c'est de mettre ce qu'on appelle quelque chose qui va décaler la phase, un décaleur de phase, c'est très moche en français, mais donc phase shifter en anglais, et donc finalement qui va inverser la phase de la lumière. Donc c'est-à-dire que là, vous avez de la lumière qui est parfaitement en phase, donc vous avez la même lumière là, et là, vous allez l'inverser de pi, par exemple. Donc la lumière ici, elle va être en opposition de phase avec celle-ci. Quand vous regardez, donc ça va également, les deux vont également diffracter, mais là, il va se retrouver, le champ électrique va se retrouver comme ceci ici et comme cela là. Et quand vous faites le carré de ça, eh bien, vous obtenez ça. Donc vous voyez que vous avez réussi notamment à éteindre à cet endroit-là, la lumière, là où vous le vouliez vraiment, et donc récupérer quelque chose de bien mieux. Alors évidemment, cette technique-là est très difficile à mettre en œuvre parce qu'il faut calculer tous les phase shifts qu'on doit mettre en fonction de tout le masque, et donc c'est assez complexe, ça fait des masques qui coûtent très très cher, et pour l'instant c'est assez peu utilisé. Une autre chose qu'on peut faire, c'est corriger sur le masque. Donc vous faites une image de votre masque et vous voyez que voilà, vous avez des choses qui sont assez distordues, là il manque quelque chose, là c'est pas très beau, etc., etc. Donc vous regardez qu'est-ce qui se passe et vous corrigez sur le masque. C'est-à-dire qu'au lieu que le masque soit quelque chose qui fait comme ça, et bien là comme vous voyez qu'il manque quelque chose, vous allez sur le masque faire une structure qui fait que là on va récupérer quelque chose. Donc on fait une rétroaction sur le masque de façon à récupérer la bonne structure que l'on voulait. Donc là, c'est plus du calcul, ça ne coûte pas trop cher, enfin, c'est du calcul qui peut être assez, assez lourd quand même, mais c'est du calcul. Et puis enfin, il y a également ce qu'on appelle les doubles expositions. C'est-à-dire, comme c'est difficile de faire des objets qui sont très proches, eh bien, on les fait un peu plus éloignés, mais on fait deux fois. Donc par exemple, si je veux faire ce petit réseau très fin, eh bien, je vais faire un réseau qui est deux fois moins fin, je vais l'exposer, et puis après, je vais faire une autre exposition avec le même masque, mais décalé, et puis de façon à avoir au final le doublement de la période. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les doubles expositions. Donc finalement, en utilisant toutes ces technologies-là, on est capable de descendre le cas. Donc, je vous rappelle, on était aux alentours de 0,6 dans les années 95. Aujourd'hui, on atteint en production des cas de l'ordre de 0,3. On estime que mais les estimations sont toujours dépassées, mais qu'on pourra guère aller au-delà de 0,25 en cas. Alors, donc vous voyez qu'on est capable de reproduire des motifs qui sont bien plus petits que la longueur d'onde, voire le quart de la longueur d'onde. Alors, les dernières techniques qui sont utilisées actuellement pour franchir ce qu'on appelle le nœud 32, là, ce qu'on fait actuellement, c'est l'immersion. Donc, l'idée, c'est que tout dépend de l'ouverture numérique, hein, et donc, il faut booster cette ouverture numérique. Et pour la booster, comme c'est très difficile de faire des lentilles avec une ouverture numérique supérieure à 1, eh bien, c'est simplement de tricher et de mettre un indice ici qui n'est pas celui de l'air, mais d'un liquide qui est un indice très fort. Donc, si vous prenez de l'eau, vous allez avoir un indice de 1,44. Donc, ça vous permet d'atteindre des ouvertures numériques efficaces de 1,2 à 1,3. Et puis, si vous prenez des huiles, des choses comme ça, vous pouvez aller jusqu'à des indices qui vont jusqu'à 2, qui permettraient des ouvertures numériques qui iraient presque jusqu'à 2. Alors, ça pose quand même des problèmes. Ce n'est pas si simple à mettre en œuvre parce qu'il faut que votre liquide soutienne la radiation. Il ne faut pas qu'il chauffe. S'il chauffe, il se met à faire des bulles. À ce moment-là, c'est une catastrophe. Il y a des problèmes de microfluidique parce qu'évidemment, les masqueurs, c'est des step and repeat. Ça se déplace, ça va très vite. Je vous rappelle qu'une machine, actuellement, ça fait 40 wafer-heure, des wafers de 300 mm. Donc, vous voyez, et chaque chip, c'est de l'ordre de 3 cm par 3 cm. Donc, vous voyez la vitesse à laquelle tournent ces machines-là. Donc, il faut que tout ça soutienne. Donc, c'est assez difficile. Mais actuellement, cette technologie est très utilisée. Et finalement, ce qu'on se dit maintenant, c'est que pour aller en dessous de 32 nanomètres, on va avoir beaucoup de problèmes avec cette lumière à 193 nanomètres. Donc ça, c'est un laser excimère qui est bien connu. Eh bien, descendons en longueur d'onde. Et l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle non pas de la lithographie UV, mais de la lithographie deep UV, enfin extrême UV. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser une source extrême UV. Donc, typiquement, c'est les lithographies à 13 nanomètres. Pourquoi 13 nanomètres? Parce qu'il y a une source qui marche bien à 13 nanomètres, qui est assez intense. Donc l'idée, c'est d'avoir cette source laser, et puis d'avoir un masque et un certain nombre de miroirs pour aller installer votre wafer. Alors, le problème de cette longueur d'onde de 13 nanomètres, c'est que tout l'absorbe, l'air, etc., toutes les molécules de l'air absorbent, et donc il faut mettre tout l'appareil sous vide, ce qui pose un petit problème, mais enfin, ce n'est pas incontournable. L'autre problème, c'est qu'il n'y a pas d'optique réfractive. On est obligé de faire des optiques réflectives, donc des miroirs. Donc le masque doit être un miroir. Tout ça, ce sont des miroirs. Et le problème, c'est que le miroir doit supporter votre résolution. Et donc la rugosité des miroirs doit être extrêmement bien contrôlée. Alors à quoi ressemble un miroir pour ces longueurs d'onde-là? Ce sont des multicouches de matériaux de différents indices diélectriques, de façon à avoir un miroir de Bragg, ce qu'on appelle un miroir de Bragg. Et donc, il faut que tout cet empilement de multicouches, il y en a au moins une vingtaine, soit parfaitement contrôlé en planéité. Il faut que la rugosité soit plus petite que 0,2 nanomètre. Donc, c'est extrêmement difficile de faire ces miroirs-là. Donc, voilà à quoi ressemblent, en gros, ces machines-là. Donc, tout ça, c'est sous vide. Là, c'est la source. Il y a un gros miroir. Là, c'est le masque qui est ici. Il y a une série de déflexions. Et puis là, vous avez votre wafer qui se déplace avec une interférométrie laser qui suit le déplacement, etc. Alors, la grosse difficulté de cette technologie-là, ben, c'est le masque. Et il semble que le UV ait raté le nœud 22, c'est-à-dire que le prochain nœud qui sera dans les années 2015, c'est 22 nanomètres, et il semble que l'UV ne sera pas prêt, essentiellement pour des problèmes de masque, pour le nœud 22 nanomètres, et que le 193 nanomètres résiste au nœud 32 et pourrait aller... avant, on pensait qu'il n'y aurait pas d'alternative pour le nœud 22 à l'EUVL, mais maintenant, il semble que le 193 nanomètres, donc le truc qu'on utilise actuellement en immersion, pourrait le faire, ce nœud à 22 nanomètres. Alors après, il y a le prochain nœud, il y a 18, etc., mais le prochain nœud terrible, ce sera les 10 nanomètres. Et là, on pense que là, franchement, le 193 nanomètres ne pourra pas le faire. Est-ce que l'EUV ne pourra pas rater ce nœud 10 nanomètres? C'est encore une question. Alors, quand on voudra descendre en dessous de 10 nanomètres, je vous montrerai qu'après, la fameuse courbe de l'ITRS va jusqu'à 5 nanomètres, etc. Après, il faut penser à d'autres choses. Alors, les gens pensent à des choses genre les ondes évanescentes, puisqu'il n'y a plus de diffraction, les plasmons de surface, qui pourraient... c'est tout ce qu'on appelle la lithographie sublongueur d'onde, qui pourrait prendre le pas. Ça, c'est en dessous des 10 nanomètres. Mais en attendant... Il y a aussi les faisceaux focalisés. Alors, ce qu'on appelle la lithographie électronique, ce qui est la lithographie électronique, par exemple. Alors, pourquoi lithographie électronique? D'abord, parce qu'on sait très bien, c'est une technologie qui est bien maîtrisée, focaliser un faisceau d'électrons sur un spot qui est plus petit qu'un nanomètre. C'est ce qu'on utilise dans un microscope électronique qui date des années 30 et qui a eu de plus en plus de progrès. Et actuellement, des microscopes électroniques avec un spot de l'ordre de quelques angstroms, on sait faire. La longueur d'onde des électrons, je vous montrais un petit tableau, elle est très très faible, donc les effets de diffraction, on peut oublier. Alors, c'est une écriture directe. C'est-à-dire qu'on va balayer le faisceau sur l'échantillon. Donc c'est très pratique parce qu'on n'a pas besoin de masque, donc ça fait déjà un truc en moins acheté. Le problème, c'est que comme on dessine avec le faisceau, ce n'est pas parallèle. C'est qu'à chaque fois, on doit faire le dessin. En gros, c'est la différence entre un tampon et vous écrivez le tampon à la main. Donc c'est très très lent. Par contre, la résolution, vous verrez, peut être excellente. On peut reproduire la taille de sonde, on peut aller jusqu'au nanomètre. Alors, donc ça, oui, c'est juste pour vous montrer, en fonction de la vitesse de l'électron, la longueur d'onde, vous voyez que même à 1 kV, la longueur de l'électron, elle est déjà en dessous du nanomètre, et quand vous êtes à 100 kV, ce qu'on utilise actuellement, eh bien, vous êtes bien en dessous du nanomètre, donc vraiment les problèmes de diffraction qu'on a avec la lumière, avec l'optique, ne sont vraiment pas un problème. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait quand on insole une résine? Alors souvent les résines ce sont des polymères, donc typiquement des chaînes. Alors la plus connue c'est le PMMA, c'est ce qui est le plus utilisé, c'est le polyméthylméthacrylate. Donc comme je ne suis pas chimiste, j'ai aucune idée à quoi ça correspond, mais je sais que le plexiglas en est. Donc c'est un genre de plexiglas, en fait c'est des chaînes de monomères, et ces chaînes de monomères, sous l'action d'énergie, vous pouvez les casser et former, de passer d'une très longue chaîne à des chaînes beaucoup plus courtes. Et l'idée, on va utiliser, c'est la variation de solubilité entre des chaînes très longues, peu solubles, et des chaînes très courtes, très solubles. Alors le problème, c'est que pour casser une chaîne d'un matériau organique, il faut quelques EV, et les faisceaux d'électrons qu'on utilise, pour des raisons technologiques, sont plutôt de plusieurs dizaines de kiloélectronvolts. Actuellement, c'est plutôt 100 kiloélectronvolts. Alors, ça pose un problème, notamment, de savoir ce qui se passe. Alors, on fait des simulations type Monte Carlo, c'est-à-dire qu'on essaie de on suit un électron lorsqu'il pénètre dans un système, donc silicium PMMA, par exemple à 10 kV. Donc ça représente la trajectoire de... On envoie un électron et puis on fait une simulation Monte Carlo qui permet de savoir en gros comment il va se diffuser dans la matière. On envoie un autre, on envoie un milliard d'électrons, avec un ordinateur bien sûr, et toujours tous au même point, et on suit toutes ces trajectoires. Donc vous voyez, vous arrivez avec un point d'impact qui est quasiment ponctuel, et vous arrivez finalement à quelque chose qui s'évase, et vous voyez que même assez loin du point d'impact, vous avez des électrons qui vont insoler votre résine. Alors ça se passe un peu mieux si vous augmentez la tension, c'est-à-dire cet élargissement ici à 10 kV devient beaucoup plus faible à 100 kV. Par contre, vous voyez que ce qu'on appelle les rétrodiffusés, les électrons qui sont rétrodiffusés essentiellement par le substrat, ils vont aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que même si vous avez un point d'impact ici, vous allez avoir une insolation ici qui peut ne pas être négligeable. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les effets de proximité. Donc vous avez une diffusion vers l'avant qui vous élargit le faisceau, donc vous perdez votre sonde qui peut être inférieure au nanomètre, mais finalement, dans les faits, elle va être un peu plus grande. Mais surtout, vous avez cette rétrodiffusion essentiellement par le substrat qui va vous donner ces effets de proximité. Alors ça veut dire qu'en gros, si j'insole ce carré, ce beau petit carré vert, et quand je vais révéler, eh bien, à cause de ces effets de proximité, je vais avoir plutôt cette forme bleue, enfin le bleu plus le vert. Et le problème va être, bon, je pourrais en tenir compte dans ma forme, hein, de mon motif, mais le problème, c'est que si je veux mettre à côté d'un gros carré un tout petit trait, parce que à cause de ces effets de proximité, je vais avoir une énergie non négligeable qui va être déposée entre les deux, qui peut atteindre la dose de ma résine, et donc finalement, je n'aurai pas un gros carré avec un petit trait, mais j'aurai un carré avec une queue. Donc j'aurais plus le gap entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Eh bien, on peut s'arranger pour modifier la dose. Donc, c'est-à-dire, je vais mettre une dose, voilà la structure que je veux. Donc, au lieu de mettre une dose homogène partout, eh bien, je vais dire, ben, au milieu, ben, je vais mettre la dose classique, la dose conventionnelle pour la résine. Et puis, au bord, j'ai un peu diminué cette dose pour tenir compte des effets de proximité de tous mes électrons qui vont par là. Et puis là, également, j'ai diminué la dose pour tenir compte de l'effet de proximité de ce gros pavé ici, etc., etc. Alors, il y a des logiciels maintenant commerciaux. Vous rentrez votre dessin dans le logiciel et puis il va vous calculer, il va vous découper votre logiciel en petits morceaux et puis il va vous calculer la dose qu'il faut mettre dans chaque morceau pour tenir compte des effets de proximité. Alors, c'est des temps, suivant évidemment la complexité du motif, ça peut être des temps extrêmement longs de calcul, mais ça existe. Alors, le problème, c'est que si vraiment... ça, c'est vraiment un très gros pavé, ça, c'est un petit et très proche. Vous pouvez demander ici à avoir une dose négative, et ça, franchement, je ne sais pas comment on fait. Donc, ça, on arrive à corriger. Mais disons que ce qu'il faut garder en tête, c'est très difficile en lithographie électronique de faire des choses qui sont très proches les unes des autres. Alors, on peut également utiliser les techniques multicouches, c'est-à-dire qu'en fait, les rétrodiffusés sont essentiellement liés au substrat, qui est un matériau généralement d'un point atomique assez fort. C'est lui qui est capable de prendre des électrons et de les remettre en arrière. Donc, ce qu'on fait, c'est que généralement, on écarte la zone active du substrat par une zone tampon, qu'on appelle une zone d'absorption. Et donc, finalement, on va insoler avec le faisceau d'électrons la résine active. Ensuite, on révèle, et puis après, on utilise des ions. Donc, on va faire une gravure ionique pour graver cette couche d'arrêt. Et puis après, on utilise d'autres ions qui vont, eux, être capables de graver la résine. Donc, ils vont graver cette résine-là, mais ici, ils vont être bloqués par là, et donc, on aura le trait dans la résine. Donc, ça, c'est des techniques multicouches qui sont relativement utilisées souvent. Donc, ça, c'est des exemples de ce qu'on arrive à faire avec un faisceau de 200 kV. Vous voyez qu'on est capable de faire des lignes de l'ordre de plus petites que 10 nanomètres. Donc ça, c'est un exemple de résolution de toutes les résines, actuellement des résines conventionnelles. Donc vous voyez que le PMMA, il a une résolution typiquement de l'ordre de 7 nanomètres. Donc avec la lithographie électronique, le PMMA, c'est une résine, c'est un polymère, donc on peut mettre une épaisseur assez grande, on peut faire des choses, du lift-off, des choses comme ça avec. Alors effectivement, on peut descendre en dessous en utilisant des résines inorganiques. Mais les résines inorganiques, généralement, demandent des temps d'insolation extrêmement longs. Ça peut être plusieurs dizaines de secondes pour faire un trait d'un micron. Donc, quand vous voulez faire quelque chose de sérieux, c'est plusieurs années, donc on oublie. C'est beau pour faire une publication, montrer qu'on a fait un trait inférieur au nanomètre. Donc, la résolution est essentiellement limitée par les résines actuellement. Alors, le cas du PMMA, donc c'est des grandes chaînes comme ça. Et quand on commence à les couper en chaînes trop petites, les chaînes se forment en pelotes. Ces pelotes se mettent à coller sur les bords, sur les flancs de la résine par les forces de Van der Waals et empêchent de descendre en taille. Donc essentiellement, on a besoin on a des problèmes de résine. Alors on arrive à faire des choses avec un appareil, disons, conventionnel, on arrive à faire des choses assez propres. Donc ça, c'est un exemple d'un anneau qui fait 500 nanomètres de diamètre. Donc vous voyez qu'on arrive à faire des structures qui sont... ce qui est remarquable, c'est que l'anneau est bien rebouclé sur lui-même, qu'il n'y a pas de défaut. Donc ça veut dire que les bobines de déflexion de ces appareils-là sont extrêmement bien calibrées, qu'il n'y a pas d'hystérésis, etc. Et on peut faire des traits qui sont très longs et très fins. Donc là, ce sont des traits qui font plusieurs dizaines de microns sur 15 nanomètres de largeur. Et puis, on peut faire des structures très compliquées. Donc ça, c'est par exemple un réseau de fils sous forme de carré. Donc le pas ici c'est 640 nanomètres, la largeur ici c'est de l'ordre de 50 à 60 nanomètres et on peut en faire des millimètres carrés. Et ici c'est un réseau un peu plus compliqué qu'on s'était amusé à faire parce qu'il y a des propriétés physiques intéressantes. On peut faire des grandes surfaces. Alors des grandes surfaces pour un physicien, c'est-à-dire quelques millimètres carrés. Mais si vous voulez faire des grandes surfaces pour quelqu'un de la microélectronique, donc c'est-à-dire un wafer de 300 mm, eh bien on oublie parce que ça va être des années d'insolation. Donc la lithographie électronique, c'est une résolution inférieure aux 10 nanomètres, c'est parfait, c'est bien, mais c'est vraiment incompatible actuellement avec les processus industriels. Et alors, on essaye quand même d'augmenter ce qu'on appelle le throughput, c'est-à-dire le nombre de wafer-heures qu'on pourrait sortir avec un appareil comme ça. Je vais vous donner deux exemples, les machines à faisceaux formés et les machines multifaisceaux. Alors l'idée, c'est que souvent, dans un échantillon, on n'a pas besoin toujours de la plus petite résolution pour faire l'ensemble. Il y a des endroits où on n'a pas besoin de grande résolution. Normalement, on a des choses grosses. Et donc, l'idée, c'est de former le faisceau suivant le motif qu'on est en train de dessiner. On le forme en dynamique. C'est en même temps qu'on écrit, on va former le faisceau. Donc, là, par exemple, si vous voulez installer ce T, si vous prenez donc, ce qu'on appelle le faisceau gaussien, ce que j'utilisais tout à l'heure, donc c'est un faisceau, eh bien, vous allez dessiner ça avec votre faisceau, vous allez faire ça et ça. Et puis, vous pouvez dire, ben, j'ai formé mon faisceau. Et donc, actuellement, on fait ce qu'on appelle du variable shape beam, c'est-à-dire que je vois que là, j'ai un grand trait à faire. Donc, je vais faire mon faisceau un grand trait, et là, j'ai installé tout ça, etc., etc. Donc, on peut gagner beaucoup de temps. Toutes les machines pour faire les masques, notamment les masques de la lithographie optique, qui ont besoin d'être faits, il faut bien quelque chose pour faire les masques, eh bien, sont faits par ce genre de machines à faisceau formé. Actuellement, la résolution, pour l'instant, elle n'est pas encore suffisante pour descendre, c'est de l'ordre de, en dessous de 100 nanomètres, mais guère mieux. Alors ce que font les gens, c'est de dire, bon, bah, finalement, ça marche très bien avec un faisceau, eh bien, si je multiplie mon nombre de faisceaux, je vais passer du séquentiel au parallèle. Donc l'idée, c'est ça, c'est de faire des machines multifaisceaux. Donc il y a une compagnie par exemple qui s'appelle Mapper qui fait cette machine où j'ai oublié le nombre de faisceaux, c'est dans le transport plus tard. Donc il y a une source qui est collimatée, après ça passe dans un réseau d'ouverture qui transforme ça en multifaisceau, et puis chaque faisceau ensuite passe dans un autre système ici, qui est un système microstructuré, et pour lequel on pilote chacun des faisceaux. On peut éteindre chaque faisceau individuellement. Et donc, on a ce qu'on appelle cette espèce ici, une espèce de fente qui contient ben, voilà, 13 000 faisceaux. Et on va piloter chacun de ces faisceaux individuellement. Et en fait, l'idée, c'est de balayer cette fente. En fait, c'est le wafer qui va circuler sous cette fente. Et on va éteindre, allumer les faisceaux alternativement pour reproduire la structure. Donc, il y a beaucoup d'efforts en ce moment sur ces objets-là, sur ces machines-là. Donc, là, c'est quelques exemples. Vous voyez que donc, ça, c'est le nombre de faisceaux. Donc là, il y a les machines à faisceaux formées, et puis il y a les faisceaux 16 colonnes, 13 000 colonnes, c'est le mapper, et Vistec est en train de faire une machine à 10 000 colonnes. Donc l'effort, il y a un effort qui est très certain. L'idée, c'est que ces machines-là, c'est des machines pour le nœud 22, voire le nœud 10 nanomètres. Alors je vais vous parler très brièvement de la lithographie ionique. Là, on prend des électrons, mais on pourrait prendre des ions. Donc les ions... La différence entre les ions et les électrons, c'est que les ions sont massifs, donc ils sont assez rapidement arrêtés par la matière. Donc ça, c'est comment se propagent des ions, donc des ions de gallium par rapport à des électrons. Vous voyez que les ions de gallium sont quasiment immédiatement arrêtés par la matière. Évidemment, si vous prenez des ions plus légers, comme des protons, ils vont aller un peu plus loin suivant leur accélération. Donc les sources d'ions, en fait, à quoi ça ressemble souvent, c'est ce qu'on appelle des sources métal liquide, c'est-à-dire que vous avez une source de métal que vous allez chauffer jusqu'à le rendre liquide, et puis vous allez mouiller avec ce métal liquide une pointe, et si vous mettez une tension d'accélération entre cette pointe et un diaphragme, eh bien, il va se créer ce qu'on appelle un cône de Taylor, c'est-à-dire que le liquide va s'affiner en fonction du champ électrique, et puis là, vous voyez une telle pointe avec ici l'émission de métal qui sort de la pointe. Donc ici, vous avez l'échelle 100 nanomètres. Donc on peut réussir à faire des sondes relativement faibles. Donc voilà des exemples. Donc on a développé au laboratoire une source de d'ion gallium dans lequel on peut faire, vous voyez, des traits de 8 nanomètres et des petits trous. Et actuellement, là, on a fait un record en faisant un petit trou de 3 nanomètres dans une membrane d'une dizaine de nanomètres. Donc ça peut être également utilisé pour les films magnétiques parce que les ions détruisent localement le magnétisme. Donc en balayant un faisceau d'ions comme ça, on peut détruire localement le magnétisme. Donc ça, c'est un exemple d'une couche magnétique en effet Kerr, c'est-à-dire que les zones noires, par exemple, l'aimantation est up, les zones claires, l'aimantation est down, par exemple. Donc vous voyez qu'on est capable de définir des domaines d'aimantation de plus en plus petits avec ce système-là. Alors l'intérêt, comme on a parlé des têtes magnétiques, vous savez que les têtes magnétiques sur un disque sont très proches, à 20 nanomètres. Donc là, vous structurez un matériau magnétique sans le déformer. C'est-à-dire que là, la dose est suffisamment faible pour qu'il n'y ait même pas de gravure du matériau, c'est juste une implantation. Donc il n'y a pas de topologie différente, la couche peut être extrêmement fine. On peut également faire du 3D avec un faisceau d'ion. Et puis récemment sont apparues les sources d'ions, enfin récemment pour l'utilisation, en fait ça date des années 55, c'est des sources d'ions gazeuses, donc typiquement de l'hélium, hein, c'est ce qui a été fait par Müller. Donc en fait on prend une pointe, alors je vais vous montrer directement, on prend une pointe, donc une pointe finalement ce sont des atomes, on le met dans un matériau, dans une enceinte dans laquelle on fait rentrer un peu de gaz, donc le gaz s'absorbe sur la pointe, et puis on applique un fort champ électrique. Et il se trouve que c'est seulement les atomes qui sont tout au bout de la pointe qui vont pouvoir émettre des ions. Donc ici, vous voyez, on est capable d'avoir, ici vous avez 9 atomes qui émettent des ions, et si vous modifiez encore la polarisation, vous pouvez en avoir que 3, etc. Donc on peut avoir des sondes extrêmement faibles, extrêmement petites. On s'est beaucoup utilisé actuellement en microscopie. Donc là, vous voyez une image SEM de particules d'or qui ont été polluées avec du carbone. Donc à 15 kV, on voit un peu les granularités qui correspondent à celles des particules d'or, mais on ne voit pas du tout le carbone. Et si vous faites la même image avec des ions hélium, vous voyez parfaitement bien la pollution avec le carbone. C'est un autre avantage, c'est que ça a une profondeur de champ extrêmement grande. Et donc là, ce sont des images de... Et puis, ce n'est pas chargé. Les ions sont neutralisés avec un neutraliseur. Donc, c'est des ions qui ne sont pas chargés. Donc, on n'a pas de problème de charge, donc qui sont très embêtants en microscopie électronique. Et donc, vous voyez, vous avez ça, ce sont des fibres qui sont totalement isolantes. Et donc, on est capable de les voir. Et vous voyez qu'on a une très grande profondeur de champ. Je crois que l'image d'ici est encore plus belle, où on voit, vous voyez, là, la résolution, ici, c'est 500 nanomètres. Donc, on arrive à voir des choses très nettes jusqu'à des profondeurs très grandes. Donc, ça intéresse beaucoup les gens. Et on peut également faire de la fabrication. Donc ici, c'est un gap de 4 nanomètres qui a été découpé avec ce fibélium. Et vous voyez, l'intérêt, c'est que comme c'est que là, c'est le bord de ce gap. Vous voyez que ça reste cristallin, même jusque très très proche du gap. Il n'y a pas de défaut induit par cette structuration. Donc, et évidemment, il n'y a pas d'effet de proximité, puisqu'ils sont arrêtés, ils ne sont pas rétrodiffusés, les lésions. Donc vous voyez, là, ce sont des séries de plots de 6 nanomètres avec des espacements différents. On met la même dose et on change simplement l'espacement, et vous voyez que le diamètre du plot, il varie absolument pas en fonction de l'espacement. On ne sent absolument pas qu'il y a un plot juste à côté. Donc il y a beaucoup d'intérêt actuellement pour ces systèmes-là. Enfin, la dernière technique dont je voulais vous parler, c'est la nano-impression. Donc, c'est une technique qui est très simple, c'est la technique du pressage. Donc, on faisait les vieux disques vinyles comme ça, et même les disques, les CD sont faits comme ça. C'est simplement, vous prenez un moule qui contient une topologie qui correspond à votre motif, et puis vous allez avoir un substrat sur lequel vous mettez une résine. Vous chauffez votre résine, la résine devient fluide, et vous pressez le moule sur la résine. Donc vous rentrez le moule dans la résine, la résine prend la forme du moule, ensuite vous refroidissez, la résine redurcit, et puis vous démoulez. Alors là, démouler, pas facile, mais il y a des astuces, il y a des produits qui empêchent d'adhérer, etc. Donc on réussit à démouler, on peut enlever ces petits résidus par une gravure, et donc vous avez reproduit votre moule sur le substrat. Alors, bon, c'est un peu pénible, c'est un peu lent parce qu'il faut chauffer, machin, refroidir, etc. Mais on arrive à avoir on a montré des résolutions de l'ordre de 10 nanomètres. Donc, c'est quelque chose qui commence à intéresser fortement les industriels, surtout que c'est très bon marché, en fait, c'est juste de l'impression. Alors, évidemment, il faut avoir le moule. Le moule est à l'échelle 1, et donc, pour ça, ben, on va avoir les gens de la lithographie électronique en leur demandant un moule, s'il vous plaît, etc. Alors, on peut faire mieux maintenant avec l'UV, ce qu'on appelle la nano-impression assistée UV. Donc, cette fois-ci, on va prendre un moule en quartz ou en plastique dur. Donc, maintenant, on utilise beaucoup le hard PDMS, qui est un polymère transparent et qui peut être assez dur. Donc, c'est assez facile de faire ces moules, en fait. Et puis, là, cette fois-ci, on va prendre une résine qui, elle, est relativement fluide à température ambiante. Et puis, on va appliquer une pression. Donc, le moule rentre dans la résine. Et pour la durcir, on la durcit aux UV. Donc, on envoie un flash d'UV qui polymérise la résine et qui la durcit. Donc, ça, c'est beaucoup plus rapide. C'est une technique qui commence à être très, très, très intéressante. Alors, il y a quand même les problèmes d'alignement. Parce que si vous voulez faire du 10 nanomètres, je crois que la règle de l'ITRS, c'est d'avoir un alignement à mieux que la fraction de nanomètre. Donc là, comme vous avez un mouvement mécanique, c'est un peu difficile, mais les gens s'y attachent. Donc ça, ce sont quelques exemples de choses de résolution qu'on arrive à faire. Donc là, vous voyez le moule, donc est fait en c'est du silicium sur lequel on a mis des plots de HSQ, qui est un genre de silicium organique. Et ça, c'est sa réplication dans la résine. Donc vous voyez qu'on arrive à avoir répliqué des plots de 20 nanomètres au pas de 60. Avec une très bonne homogénéité. Alors, ce qui court aussi dans l'idée des gens de la microélectronique, c'est de faire ce qu'on appelle du roll-to-roll, c'est-à-dire d'avoir un rouleau qui contient la topologie que vous voulez, et vous le roulez sur l'échantillon. Alors ça, c'est surtout les gens du photovoltaïque qui sont intéressés par ça, parce que pour améliorer le rendement des structures des systèmes photovoltaïques, l'idée c'est de faire des nano-objets dessus qui vont par effet ce qu'on appelle plasmonique, c'est-à-dire une espèce d'augmentation du champ électrique localement autour de petites particules métalliques permettrait d'augmenter sérieusement le rendement des cellules voltaïques. Mais pour ça, il faut être capable de faire ça sur des grandes surfaces et pour pas cher, parce qu'une cellule voltaïque, il faut qu'elle coûte pas cher. Et donc l'idée c'est de faire du roll-to-roll pour ça. Alors ça, je vous montre maintenant ce qui nous attend, le futur. Donc vous voyez, là on est en 2011-2012, donc actuellement c'est de 193 nanomètres en immersion. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à améliorer un peu la technique, mais que ça marche. Ça, ça commence à se faire, mais ce n'est pas encore qualifié. Ça, il faut vraiment travailler, et ça vraiment, il faut travailler dur. Donc, vous voyez que pour les années 2011, bon, ben, au 2011-2012, le NIEU 36, 32 nanomètres, Le 193 nanomètres reste encore là. Ensuite, eh bien, là, il va falloir commencer à travailler pour le nœud 28 nanomètres. Donc, c'est possible, il faut améliorer un peu, mais vous voyez, le nœud de 28 nanomètres, c'est le 193 nanomètres qui a encore la main. Par contre, pour le nœud 22, ici, vous avez les nœuds 45-32, le nœud 22, le UV, là, il a besoin de, il est encore en développement. Beaucoup de gens pensent qu'il ne sera pas prêt pour le nœud 22, alors que le 193 nanomètres, lui, il va pouvoir y aller. Et on commence à penser également au... donc ML, ça veut dire maskless lithography, c'est donc la lithographie électronique, avec les multifaisceaux. Le imprint pour les DRAM, parce que les DRAM, il n'y a pas beaucoup de... C'est les mémoires dynamiques, en fait, il y a peu de niveaux. Sur un microprocesseur, il y a énormément de niveaux de masquage, alors que pour une RAM, il y en a beaucoup moins. Donc, on est moins sensible aux problèmes de positionnement. Et puis, etc. Donc, après, là, vous voyez, ça devient de plus en plus noir, là, parce que là, il y a du travail pour descendre au nœud 23, le nœud 20. Vous voyez qu'en 2026, eh bien, ce sera 6 nanomètres, la plus petite distance dans les objets. Et donc, ça, 6 nanomètres, vous voyez qu'il y a blanc, là, on ne sait pas du tout. Voilà. Donc, je vais juste vous parler, mais alors très rapidement, des techniques de transfert. On ne peut pas du tout utiliser la gravure humide quand on a des nanostructures, parce que la gravure humide, le problème, c'est qu'elle a souvent des problèmes d'isotropie, c'est-à-dire que ça grave aussi bien en profondeur qu'en latéral, et donc on perd immédiatement la résolution du masque. Donc on va plutôt utiliser des techniques ioniques, donc c'est ce dont parlait Clément. Donc l'idée, c'est en fait de prendre... des ions, argon, de les accélérer dans un faisceau parallèle et de venir frapper l'échantillon. Donc les ions argon, eh bien, ils vont frapper l'échantillon, ils vont expulser des atomes. Alors, le problème de ça, c'est que souvent, quand l'ion arrive, il va effectivement donner de l'énergie et puis enlever l'ion, mais l'autre, il n'a aucune raison d'aller pas se redéposer. Donc souvent, on a des problèmes de redépôt, c'est pas terrible. Donc on passe plutôt aux gravures dites plasma. Donc le principe, c'est relativement simple. Vous injectez un gaz dans votre système, vous envoyez une radiation radiofréquence, donc qui va exciter les électrons, qui va ioniser le gaz. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les électrons, eux, sont très rapides, ils sont très légers, très rapides, donc ils suivent la radiation, le champ radiofréquence, alors que les ions, non. Les ions, ils sont lents, ils ne suivent pas ces fréquences-là. Donc très rapidement, on a une polarisation, parce qu'il y a plus d'électrons qui arrivent que d'ions qui arrivent, donc on perd l'équilibre, la neutralité. Donc on a une polarisation qui se crée automatiquement, qu'on bloque par une capacité, et donc on a une tension de polarisation qui va créer un champ électrique continu, qui va accélérer les ions et venir les faire frapper votre échantillon. Alors, l'intérêt de ça, c'est qu'on va pouvoir mettre un aspect chimique. L'aspect chimique permet d'aller vite et permet d'éviter les redépôts. Donc vous allez mettre donc ça c'est le matériau que vous voulez graver. Vous avez des espèces qui sont par exemple non actives, donc elles vont pas abîmer par diffusion, elles vont pas aller n'importe où. Et donc par contre vous allez avec des électrons générer des espèces réactives qui vont venir se déposer par diffusion et venir graver votre échantillon. Et ce qu'on essaye de faire, c'est que au cours de cette réaction se crée une espèce qui soit volatile. Donc, et qu'il y ait une désorption, et que c'est par balayage de gaz, on puisse éjecter cette espèce-là, et donc ne pas avoir de redépôt. Donc ça, c'est le principe de base. Donc ça marche assez bien. Là, on a besoin généralement de l'aspect physique et de l'aspect chimique. Donc là, par exemple, c'est la gravure de silicium avec un mélange de gaz, donc c'est du fluorure de xénon. Donc si vous envoyez du fluorure de xénon sur du silicium, il ne se passe rien. Il n'y a pas de gravure, donc ça c'est l'épaisseur gravée en fonction du temps. Et puis quand vous envoyez un canon argon dessus, eh bien vous voyez que tout d'un coup vous avez de la gravure qui se produit. Donc ça c'est parce que le canon argon il va dissocier le fluorure de xénon pour créer des ions fluor qui eux sont actifs. Et puis si vous enlevez le fluor, vous laissez seulement les ions argon, vous voyez que vous êtes purement physique, il ne se passe quasiment rien. Donc on a un mélange de ces deux choses. Et le truc fondamental, c'est qu'on est capable d'avoir de l'anisotropie. Il est extrêmement important que la gravure soit parfaitement verticale, parce que vous avez des structures très petites. Si vous ne gravez pas verticalement, si vous gravez comme ça, par exemple, eh ben, la structure, elle tombe. Donc il faut être parfaitement droit. Et pour ça, on peut utiliser de la passivation. C'est-à-dire qu'on va mélanger dans le gaz actif un gaz passivant. C'est un gaz qui bloque toute réaction chimique. en passivant la surface. Donc ce gaz, par diffusion, lui, il va se mettre, il va tartiner un peu tout l'échantillon, et il va bloquer toute réaction par diffusion des ions actifs dans le système. Sauf quand un ion vient casser cette passivation, et à ce moment-là, il crée un trou dans la passivation, il peut réagir, etc. Et vous voyez que dès qu'on est parallèle au cheminement des ions, ben on ne les voit pas, et donc tous les flancs qui sont bien verticaux, eux, ne sont pas bombardés par les ions et donc ne sont pas attaqués. Donc on a comme ça, on peut gagner comme ça une très très forte anisotropie. Donc je vais vous montrer juste, pour finir, des exemples d'anisotropie. Vous voyez qu'on peut avoir des rapports d'aspect qui sont supérieurs à 10, ce qui est assez difficile à faire. Donc ça, ce sont des piliers qui ont été faits pour le Collège de France, d'ailleurs. Des piliers de silicium. Donc ça, ce sont des murs. Ici, c'est un cristal photonique, donc quelque chose qui permet de guider la lumière. Et pour faire un cristal photonique, il faut faire des trous qui soient plus grands que la longueur d'onde de la lumière qu'on veut guider. Donc c'est de la lumière généralement à 1,5 micron, longueur télécom. Donc des trous qui sont plus grands qu'un micron, en tout cas. Et ça, c'est très difficile de faire un trou de 0,2 micron sur plusieurs microns, parce que vous pouvez même essayer, faites un trou, vous, de 10 cm, de 1 mètre, vous n'y arriverez pas. Et donc là, c'est très difficile, on y arrive, vous voyez les trous qui sont extrêmement profonds, avec des rapports d'aspect très impressionnants. Donc, évidemment, c'est pas seulement... Bon, cette technique a été extrêmement développée. On utilise d'autres plasmas que les plasmas RIE, des plasmas plus denses. On éloigne le plasma. En fait, le problème de la RIE, c'est que la pression de gaz et l'autopolarisation sont liés, puisque c'est le mouvement lent des atomes qui crée cette polarisation. Et donc, ça, on ne veut pas. Généralement, on veut dissocier l'aspect pression de gaz, qui est l'aspect chimique, de l'aspect autopolarisation, qui est l'aspect physique. Donc, pour ça, on fait des plasmas denses, qu'on appelle les plasmas qui sont couplés inductivement, ou des plasmas résonance cyclotron, etc. Bon, il y a beaucoup d'améliorations, mais je n'ai vraiment pas le temps de vous en parler. Donc, pour conclure cet exposé, je vous dirais qu'on dispose actuellement de techniques qui permettent de descendre à des dimensions inférieures à 10 nanomètres. La lithographie électronique en est un exemple, la nano-impression. Mais pour l'instant, elles ne sont absolument pas compatibles avec les impératifs de la microélectronique en termes de throughput, de waferer. Alors, il y a bien entendu des recherches qui se font en essayant de rendre ces technologies multifaisceaux, donc massivement parallèles. Donc ça, c'est en cours. En dessous de 5 nanomètres, pour l'instant, on n'a pas vraiment de résine qui soit adéquate. C'est-à-dire que, bon, vous avez vu que le PMMA, il faisait des boulettes qui gênaient. Eh bien, pour l'instant, on a vraiment besoin des chimistes pour avoir des résines qui soient... Alors, les résines inorganiques sont très bien parce qu'elles n'ont pas ce défaut-là, mais elles sont extrêmement peu... elles ont une sensibilité qui est vraiment très, très faible, et donc qui ne permet pas de faire des objets raisonnables. Et pour l'étape suivante, qui est ce que j'appellerais la picofabrication, eh bien là, c'est certainement... Là, on voit qu'on va avoir besoin, comme Clément l'a dit tout à l'heure, les chimistes auront besoin des physiciens, les physiciens auront besoin des chimistes, et donc... tout se passe bien, si chacun en a besoin les uns des autres, on a de bonnes raisons de s'entendre. Et donc, pour faire une espèce de mélange entre ces techniques top-down et les techniques bottom-up. Je vous remercie.